La SNCF, c'est aussi le plus gros transporteur routier, c'est Géodis.
J'ai pas envie que ma retraite parte en fumée parce que M. Macron a décidé de nous passer une retraite à points où on va perdre de l'argent, où nos gosses vont se faire avoir. Tout le monde a à y perdre, privé comme public. On appelle à la grève reconductible. Et on continuera jusqu'à temps que M. Macron enlève cette retraite à points.
Pourquoi aussi les retraites, c'est vraiment mobilisateur? Parce que ça concerne tout le monde. Absolument tout le monde. Et c'est un des points, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on reste non plus que sur les retraites.
On se bat pour les conditions humaines, j'ai envie de dire, tout simplement. Les droits de l'homme, ils sont où aujourd'hui? J'ai l'impression de plus les voir, moi.
Quelle société on veut, quoi?
Tous dans la rue, grève générale, une grève interpro. On est déterminés, on ne se laissera pas faire.
Ils en ont gros sur la patate et ils sont remontés comme des coucous, les cheminots, et ils sont pas les seuls. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off. Décembre 2019, manifestation et grève interprofessionnelle reconductible, mouvement social contre la retraite à points. La casse du système des retraites a démarré sous Juppé en 95, casse poursuivie par les marionnettes politiques qui défilent depuis au pouvoir, toutes au service des riches, qu'elles se prétendent socialistes ou pas. Mais au-delà de la casse des retraites, c'est aujourd'hui une fois de plus un mouvement social contre toute la dégradation de la société, et notamment contre la destruction de nos services publics. C'est une grève pour défendre tout le monde, et pas seulement la retraite des cheminots. La journée de mobilisation sociale du 5 décembre a été un franc succès, et pour ma part, j'ai eu le plaisir de manifester avec une petite fanfare funk improvisée par quelques zikos. Merci à eux de nous accompagner aussi pendant cette émission. Le mouvement a d'abord été lancé par une grève d'employés de la RATP, suivie par les cheminots, et finalement par d'autres corps de métiers des services publics et aussi du privé. Sachant que les salariés de l'hôpital public sont en manifestation depuis des mois. Alors vous connaissez par cœur le discours des médias dominants, hein, les cheminots et fonctionnaires sont des privilégiés grassement payés à rien foutre dans des plans qu'à la SNCF. Et pour conserver leurs privilèges, ces égoïstes prennent en otage de pauvres clients qui ne peuvent pas aller au travail à cause de ces grèves odieuses et injustes, etc., etc. Certains vont même jusqu'à raconter que ces planqués de cheminots touchent encore une prime de charbon. Prime qui, pour votre information, a été abolie en 1972. Or, quand ils font grève, nos cheminots et nos fonctionnaires ne se battent pas que pour eux-mêmes, mais pour tout le monde, contre ce capitalisme sauvage qui transforme notre société en jungle sans pitié. Une jungle où les services publics sont privatisés les uns après les autres, sous prétexte d'une prétendue dette qui n'existe pas, hein, puisque la France est l'un des pays les plus riches du monde, avec une énorme évasion fiscale. Or, nos services publics sont une richesse qui profite à tous, et même aux riches. Comme on le disait dans une précédente émission, les cheminots font grève pour défendre le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, et même aussi de ceux qui en ont un. Alors si à chaque grève, les médias nous abreuvent de micro-trottoirs, de pauvres clients énervés parce qu'ils n'ont pas de train pour aller bosser ou partir en vacances, par contre, on n'entend jamais ce que les cheminots ont à dire, si ce n'est revendiquer qu'on préserve leur régime conquis de haute lutte, régime transformé en privilège dans la propagande médiatique. Aujourd'hui, on va donc écouter ce que des cheminots et cheminotes ont à dire. Rendez-vous au local du syndicat Sudrail Solidaire, à côté de la gare de Tours, en région centre. Alors vous allez vous dire que vous entendez régulièrement des gens de chez Sud Solidaire dans cette émission, et pour cause, parce qu'il me semble que par chez moi, en tout cas, Sud Solidaire est un vrai syndicat de combat qui fait du bon boulot avec intelligence, intégrité et sans compromission. Bref, aujourd'hui, porte-parole de cheminots et cheminotes de chez Sudrail. Sans préparation, sans plan de discussion, j'ai débarqué comme ça, hein, pour les rencontrer. Et on va parler librement au fil d'une conversation qui va aller dans tous les sens, survoler les innombrables raisons de cette grève interprofessionnelle. Et vous allez voir qu'au-delà de la question de la retraite de tout le monde, les cheminots ont aussi des tas de choses à dire sur le sabotage de la SNCF, la casse de leur métier et globalement la casse de toute la société. On se rencontre donc pendant une pause casse-croûte au petit local syndical Sudrail, ambiance de veillée d'armes avec rillettes, pâté et bonne humeur combative. Bonjour Willy.
Bonjour.
Il y a tous les corps de métier là qui sont représentés en train de casser la croûte.
Tout à fait. Alors moi, je suis du matériel. Là, on a Julien.
Bonjour.
C'est quoi ton boulot ?
Je suis conducteur de train fret à Saint-Pierre-des-Corps.
Et toi, salut.
Salut, bonjour, moi je suis retraité.
Et du temps où tu bossais ?
J'ai de la billetterie, service voyageur.
Ton boulot qui a été remplacé par des ordinateurs et des machines qui se mettent jamais en grève, c'est formidable. Bonjour.
Bonjour, alors moi c'est Xavier, retraité aussi, du fret, mais à la manœuvre.
Moi c'est Tony, moi je suis contrôleur à la SNCF, TGV, alors je veux plus de charbon, hein. Rassurez-vous, pas de charbon, c'est l'électrique.
Ouais, vous vous rendez compte, ces privilégiés qui touchent des primes du charbon à l'époque du nucléaire, donc on le dit une bonne fois pour toutes, cette prime a été supprimée en 1972.
C'est exactement ça.
Salut. Isabelle, c'est quoi ton métier ?
Bah, je n'ai plus de boulot, je suis au pôle emploi de la SNCF, voilà, espace mobilité emploi, on appelle ça la SNCF. Ça veut dire qu'ils ont supprimé mon poste, hein. Et que donc je vais aller dans un bureau où il va falloir que j'aille sur la bourse de l'emploi de la SNCF pour essayer de me trouver un autre boulot. Et si m'en trouve pas, j'aurai peut-être des petites missions. Je serai peut-être missionnaire pour aller faire un petit boulot de 2 mois par-ci, 3 mois par-là. Voilà. Sinon, je suis dans le domaine RH formation professionnelle.
Oui, ça s'appelle voie de garage ou placard.
Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Bon. C'est en attendant la retraite, ça fait plaisir, quoi. Voilà, c'est le remerciement. 20 mois de la retraite, bon ben, au revoir madame, on n'a plus besoin de vous. Allez sécher dans le placard derrière.
Et moi, c'est Nicolas, conducteur fret à Saint-Pierre-des-Corps aussi.
Bonjour Antoine, usager SNCF, et là par solidarité avec les gens qui sont présents, avec mon frère qui m'a pris en otage aujourd'hui pour casser la croûte avec eux.
Alors vous venez d'entendre le cliché médiatique, hein. Les cheminots grévistes prennent les gens en otage. Ça n'amuse pas beaucoup Tony le contrôleur.
Alors la seule réponse que j'ai à dire à ces gens, la prise d'otage, en fait, il faudrait juste qu'ils se rappellent une petite date, c'est le Bataclan. Et demander à ces gens qui ont vécu le Bataclan pour savoir ce que c'est qu'une prise d'otage. Moi je suis pas armé, nous on est plutôt peace, hein. Sud c'est pas la guerre. Donc la prise d'otage, nous on connaît pas. Voilà, une prise d'otage c'est les armes. Et la seule arme qu'on a, nous, c'est nos revendications, et on revendique le mouvement interprofessionnel, c'est-à-dire qu'on entend dans les médias que c'est une grève SNCF, RATP. Faux, c'est une grève interprofessionnelle, reconductible évidemment.
Alors Xavier, tu iras manifester pour quoi, toi ?
Pour le retrait de la retraite à points, qui n'est pas bénéfique à tous salariés, à tous ouvriers. Très grosse perte de salaire pour tout le monde, quoi, hein, pas que nous les cheminots, quoi.
C'est le déclencheur de ce mouvement social.
C'est exactement ça. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils retirent sa retraite à points. Parce qu'ils nous font toute une polémique avec la clause du grand-père pour nos enfants, plus toute la mise en place de cette retraite à points où on va se rendre compte que, bah, en fait, en fonction de nos salaires, on va y perdre gros. Les femmes vont y perdre gros. Parce qu'en fait, les femmes qui ont des enfants, en fait, elles vont y perdre beaucoup. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils retirent ça. On va y perdre tous. On appelle tout milieu privé-public, comme je le disais tout à l'heure, à aller manifester pour la retraite, notre ancienne retraite, qui fonctionnait bien. Et en fait, c'est français, en fait. Tout ce qui marche bien, on l'enlève. Donc, retraite à points, non.
Willy, est-ce que cette grève, c'est seulement pour une histoire de retraite à points ?
On se bat pour nos conditions sociales, salariales, sanitaires même, parce qu'on en arrive là, les conditions de travail. Et c'est pas que les cheminots, quoi. Quand on dit interprofessionnel, c'est ceux qui bossent, même les étudiants, les lycéens, c'est pour leur avenir. Le gros sujet actuellement, parce qu'il y en aura d'autres, c'est la retraite. Quand tu vois le bordel que c'est, autant nous on va trinquer, moi je te parle, je vais trinquer, comme ça, mais nos gosses, ça va être terrible, ça va être terrible. Pour l'instant, parce qu'on n'est que sur ce sujet-là. Bientôt, il va sûrement y avoir celui de la sécurité sociale. C'est même pas que l'interpro, c'est tout le monde. On se bat pour les conditions humaines, j'ai envie de dire, tout simplement. Les droits de l'homme, ils sont où aujourd'hui ? J'ai l'impression de ne plus les voir, moi. Et même, on pourrait aller au-delà de notre pays. Et c'est de pire en pire. Le capitalisme, je pense, arrive à saturation, mais c'est nous qui mangeons. Voilà, il va se passer quelque chose. Est-ce que ça va être le 5 là? Est-ce que ça sera le 6? Est-ce que ça sera pendant 15 jours? Est-ce que ça sera pendant 3 semaines? Est-ce que ça va durer on sait combien de temps? Je ne sais pas. Je suis de la SNCF depuis 27 ans. La SNCF, c'est pourri intérieurement. Ça a été voulu, hein, mais ça a été pourri intérieurement, en fait. Pour que, extérieurement, on passe pour des nantis, bien payés, bien machin, truc. Alors que c'est pas du tout ça, quoi. 27 ans de boîte, je touche 2000 euros par mois. J'ai réussi à me faire un crédit, hein, qui me plombe la gueule, hein, faut pas rêver, hein, comme tout le monde, hein. 2000 euros par mois, j'en ai parlé une fois à quelqu'un.
Au bout de 27 ans de boîte.
Attends, et puis je précise, y en a qui font plus, hein. Mais je fais une semaine de nuit par mois, je bosse un week-end tous les deux mois. 27 ans de boîte, donc 2000 euros. Quand j'ai parlé de ça à quelqu'un du privé qui avait quasiment le même âge que moi, il a rigolé. Ça le faisait chier pour moi, mais il me disait, bah, attends, moi je suis à 3000. Donc quand on nous explique que dans les médias, que la moyenne de salaire d'un cheminot, c'est 3 ou 4 000 euros, je crois, qui a été annoncé, ça me fait bien rire. Déjà, si on met Monsieur Pépi dedans, forcément, Monsieur Pépi, c'est 40 000 euros par mois, quoi. Bon, forcément, si on met un mec comme ça, la moyenne de salaire, ah oui, c'est sûr, hein, elle arrive à 3 ou 4 000, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Mais il faut se dire que, on va dire, 75% des cheminots touchent en dessous de 3 000. C'est ceux qui sont au-dessus qu'on a surpayés, qu'on a achetés, quoi. C'est tout un système, de toute façon. C'est une grosse boîte et c'est tout un système de délation, de perversité, quoi. C'est super pervers. Même la réglementation SNCF, quand tu la regardes bien, c'est super pervers, quoi. Et puis, t'en arrives, les petits gens, ben, on préfère c'est dommage, hein. On se bat entre nous. Voilà.
Ou démissionne.
Voilà. Ou alors on craque. Ou alors ceci. Voilà.
Parce qu'on va en parler tout à l'heure. Il n'y a pas qu'à France Télécom que les gens se suicident. Mais on n'en est pas encore là, Nicolas.
Tu parlais tout à l'heure du champ médiatique. La douce chanson médiatique. Et c'est vrai qu'on voudrait faire passer cette grève, cet appel à la grève, pour une grève et un appel catégoriel, en fin de compte.
Ils font toujours ça. Vous dire que vous battez pour vos privilèges, pour votre prime, oui, de charbon, alors, pour votre précaré.
Si tu veux ça, je veux bien l'entendre, comme l'année dernière, par exemple, où on était en grève clairement pour défendre le secteur ferroviaire. Donc là, oui, c'était clairement catégoriel, secteur ferroviaire, bien que le secteur ferroviaire, bah, c'est un bien commun. C'est du commun. Pour moi, c'est pas comme avoir sa maison à soi, ses immeubles à soi. Ça n'a rien à voir. C'est un bien partagé. Donc, j'ai pas de problème pour dire patrimoine, moi, par exemple. Commun. Donc, voilà. Là, OK, c'était une grève dans ce sens-là, on va dire. Bien qu'il y avait quand même une finalité pour l'ensemble de la société. Là, en l'occurrence, c'est clairement un appel à tous les secteurs, à tous les travailleurs. Seulement, voilà, le champ politique et médiatique, c'est de vouloir discréditer, finalement, aux yeux du grand public... Bah, dire, bah non, attendez, regardez, c'est des nantis qui font grève pour protéger ce qu'ils ont. Faut que les gens, à un moment, les gens, j'aime pas dire ça, nos concitoyens, il y en a qui vont pas aimer si je dis citoyens, nos amis, hein, nos frères, appelez ça comme vous voulez, et sœurs, pardon, Isa, ouvrent leurs yeux, leurs oreilles, je vais pas faire de la poésie, mais aussi un peu leur cœur, des fois, et se décentrent de leur nombril, et se rendent compte un peu qu'on vit dans une société où on a tous besoin les uns des autres d'une manière ou d'une autre. On en vient. C'était il y a plusieurs siècles où c'était chacun pour sa gueule, les seigneurs au-dessus, en fait, qui nous mangeaient sur le dos, et puis nous, on se bouffait entre nous pour essayer de survivre. Et grâce aux conquis et aux conquêtes sociales qu'on a obtenues, et ben justement, on est sorti de ce système, on s'est émancipé, on a réussi à construire un truc commun. Et là, ils essayent de le détruire, clairement. Il y a un moment où il va falloir s'en rendre compte. Alors oui, nous, les cheminots, eh ben, nous, ça ne nous plaît pas. Alors après, c'est pareil, hein, ce n'est pas tous les cheminots. Hein. Visiblement, il y a des syndicats cheminots, donc j'imagine des cheminots aussi, qui s'en satisfont. Bon, bah, c'est dommage. Nous, on n'est pas dans cette optique-là. Après, je voulais dire un truc aussi. Tu disais tout à l'heure, la SNCF, les cheminots, c'est le dernier bastion ouvrier, machin. Il y a une réalité quand même qu'il faut connaître, c'est qu'à la SNCF, il y a beaucoup de cadres. Il y a de moins en moins de petites mains, entre guillemets, puisque en fait, on externalise beaucoup de choses. Et les cadres, ils ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde que nous. Alors là, visiblement, ils ont l'air de l'être, et je m'en réjouis, on s'en réjouit tous, on espère que ça va durer.
<t'-> pourquoi le capital veut-il privatiser les services publics, dont le train ? C'est une opération à au moins deux étages. Évidemment, le premier but de la manœuvre, c'est que quelques riches se fassent du fric avec la privatisation de la SNCF. La refourguer par petits morceaux à des actionnaires du privé qui vont presser comme des citrons sans investir dans l'équipement, ce qui, on va le voir tout à l'heure, a un impact dramatique sur la sécurité. Privatiser le train, c'est faire la même connerie que les Anglais ont faite avec Thatcher il y a environ 40 ans. Deuxième étage de la manœuvre, et le plus important peut-être pour le capital, c'est aussi d'en finir avec ces vilains cheminots. Faire un exemple et faire peur à tous les autres salariés qui osent broncher. Décapiter les cheminots, c'est décapiter le dernier gros bastion ouvrier de France qui ose encore lutter pour ses droits et ceux des autres. Les cheminots et fonctionnaires sont notre dernier rempart contre la destruction de ce qui reste de nos conquêtes sociales. En avril 2018, les cheminots ont donc fait une énième grosse grève contre la réforme de leur régime ou de leur statut. Contre la casse de leur métier, contre la casse de l'outil qui marchait très bien du temps où il appartenait à l'État. Et en 2018, et contre l'avis de Sud, l'intersyndicale a opté pour une stratégie de grève perlée au lieu de la faire dure et reconductible. Or, à coups de covoiturage et de blablacar, les usagers se sont adaptés à ces petites grèves régulières et on a pensé qu'en essuyant une ultime défaite, les cheminots avaient aussi définitivement perdu toute une histoire de lutte sociale. Or, les cheminots bougent encore, et le reste de la société aussi d'ailleurs. Et ça, Macron, digne héritier de Thatcher, ne s'y attendait pas, Isabelle.
Il avait cru avoir gagné et nous avoir tués l'année dernière avec la réforme ferroviaire, donc qui a fini, parce que ça date pas non plus de l'année dernière, cette destruction du service public ferroviaire, ça fait après 95, ils ont commencé à l'entamer en fait. Ils se sont dit on va pas faire ça tout de suite, on va y aller doucement. Et ils croyaient nous avoir tués un peu à la Thatcher, il n'y a pas d'autre alternative. De toute manière, faites grève un mois, deux mois, trois mois, on s'en fout. Et là, ils pensaient, ça y est, ils ont canné, toi. Ils ont canné, je les ai fait canner. Comme tu dis, parce que oui, nous sommes encore, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce nom, qui est un peu guerrier, bastion vrier, quoi. Et il est vrai que si on se mobilise, on peut bloquer. Parce que le but d'une grève, c'est quoi ? C'est bien de bloquer la production, on est bien d'accord. Et alors là, j'ai l'impression que la peur, elle a changé de camp, là. Parce qu'ils se disent, merde, ils sont encore là. Et on lance, et on lance, et on fait du boulot. Parce que, en fait, nous, à Sudrail, c'est sorti comme ça. Pourquoi le 5, en fait ? On était en congrès fédéral, et on avait donc décidé qu'il fallait un fort mouvement. Déjà, au départ, c'était par rapport à SNCF 2020. Bon, voilà, plus d'entreprises publiques, etc., etc. Et on a appris dans ce congrès qu'il y avait eu donc une AG à la RATP qui appelait au 5. Et donc, nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On attend ? Non, on a dit qu'on voulait faire quelque chose. Donc, on y va. Et il y a les retraites, surtout, aussi. En fait, c'est un tout, et justement, il ne faut pas... je crois dissocier l'aspect, on va dire, professionnel et l'aspect social ou sécurité sociale, protection sociale et les droits, en fait, parce que tout ceci est lié, quoi. Je crois que là, il faut qu'on se batte contre un système qui, en fait, n'est pas qu'un système économique parce qu'il nous bouffe et veut qu'on soit tous identiques, que ça soit au niveau culturel, on sait ce qu'on entend actuellement, au niveau de choix politiques, de choix économiques, mais de choix sociaux, tout. Là, il y a les retraites. Mais bon, avant, il y a eu la loi sur l'assurance chômage. Après la Sécu, mais on y est déjà, le budget 2020 là, de la Sécu, c'est quoi ? Il a mis en place des dispositions, décisions d'État. Ces dispositions, il les a fait payer en ponctionnant la Sécu. C'est moins de cotisations pour les employeurs. Donc tout ça, c'est quoi ? Bah oui, c'est le pot commun de la Sécu. Mais auparavant, quand même, quand il y avait un choix politique, c'était le politique qui l'assumait. C'est-à-dire, c'était le gouvernement. Il n'allait pas chercher l'argent dans la Sécu. Tandis que là, on vous annonce un trou de la Sécu parce qu'ils veulent récupérer 5 milliards. Quoi. C'est tout ce système-là qui est mis à mal. Et là, oui, il y a les retraites, c'est un sujet, c'est les retraites. Mais pourquoi aussi les retraites, je pense, c'est vraiment mobilisateur parce que ça concerne tout le monde, absolument tout le monde. Et c'est un des points, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on reste non plus que sur les retraites. Quoi. Justement, il faudra amplifier les consciences de tout un chacun et du collectif, de savoir, mais en fait, quelle société on veut, quoi, vraiment. Voilà. Il y a ça, ouais, les conditions salariales, les conditions de travail, mais qui se dégradent partout. On est tous pris pour des chiens et des chiennes. Voilà, on nous traite comme des merdes. Dans la boîte, nous, mais ils sont débridés. T'es pas content, mais dégage, toi. Puis avec le sourire, vous savez, là. Voilà. La SNCF, on est le dernier, hein, parce qu'avant, nous, il y a eu tout le pan du service public. Hein, je ne veux pas les reciter, mais enfin, EDF, GDF, les télécoms, la Poste. Ils auront mis 20 ans, en fait, hein, 20-25 ans à le faire. Mais ça y est, on est dedans, dans le vif, dans le vrai, là.
Il y a, un, vos propres conditions de travail. Deux, la préservation de l'outil de service public pour tout le monde. Mais au-delà de ça, il y a ce projet de société. Enfin voilà, on a quand même des anciens qui se sont battus pour nous léguer des conquis sociaux. Moi, je dis jamais acquis sociaux parce qu'on voit bien justement que c'est jamais acquis. La sécurité sociale, l'hôpital, la retraite, la CAF, tout ça. Bah, c'est pas les patrons qui, d'un seul coup, au prix d'un élan de générosité, ont sorti leurs cornes d'abondance pour dire « Ah bah tiens, on prend soudain conscience qu'on pourrait faire des trucs. » Non, tout ça a été conquis et souvent dans le sang. Et au-delà de l'outil, au-delà de vos propres conditions de travail, c'est pour tout le monde. J'en reviens à cette formule, les cheminots font grève pour défendre le patrimoine de ceux qui n'en ont pas.
Alors moi, je ne dirais pas ça, défendre le patrimoine de tous. C'est un collectif, ça nous appartient, le service public.
C'est vrai que les riches aussi prennent le train, ils ont des trains de riches, hein, qui s'appellent TGV.
C'est un service public, il appartient à tout le monde. C'est un bien commun.
Content de bosser pour aider les autres à bosser, quoi. Mais par contre, qu'on me donne les moyens, que ça soit pécunier ou matériel, mais qu'on me donne les moyens, c'est tout. Et puis qu'on nous respecte, qu'on nous prenne pas comme des merdes, comme a dit Isa, quoi. C'est tout. C'est tout ce que je demande. Après, moi, de bosser pour les autres, pour qu'ils eux puissent aller bosser. Mais au contraire, c'est ça une société, je pense. Si on veut qu'elle fonctionne, c'est que chacun s'entraide. C'est tout.
Et justement, c'est pour ça qu'il y a ce mal-être au travail, parce que quand même. Et là, c'est pas un euphémisme, c'est pas pour faire beau ce que je vais dire, parce que j'y crois vraiment. Autour de moi, c'est pareil. C'est que malgré tout, on a envie de faire bien, parce que justement, nous sommes au service des usagers. Il y a tout un aspect qui est essentiel. On a des vies. Il y a cet aspect sécurité, mais aussi de service, de qualité, etc. Et donc, je dirais qu'on a, oui, cette culture de bien faire pour que chaque voyageur et voyageuse puisse voyager dans des bonnes conditions de sécurité, de confort, etc., etc. Et là, le mal-être arrive. Pourquoi ? Au travail arrive. Parce qu'on ne nous donne plus les moyens pour bien le faire. Et ce qui fait, il y a plein, et quels que soient les métiers, de besoin de faire des rattrapages, mais qui vont être des rattrapages perso, qu'on va prendre sur soi. Et ça, on le vit mal, quoi. On ne peut pas. Parce que malgré tout, on veut donner ce service. Mais on ne donne plus les moyens de le faire bien. Et de le faire de façon égalitaire, en plus. Parce que, comme tu le disais, hein, maintenant, il n'y a pas deux classes. Il n'y en a même pas trois, il y en a quatre des classes. Première classe, c'est TGV. Deuxième classe, c'est le TER. Troisième classe, c'est les bus. Et après, t'as Blablacar, quoi. Parce que la SNCF, elle est dans tout ça aussi, quoi. La SNCF, c'est aussi le plus gros transporteur routier. C'est Géodis.
Les Ouibus, c'est aussi la SNCF. Donc la SNCF finance des bus qui font concurrence à ses propres trains.
Les filialisations, c'est pas d'aujourd'hui. Ça a commencé par le fret, déjà, en je sais pas quelle année. C'est du copinage entre patrons. Je t'offre ça, comme ça, ça te fait du pognon, et puis machin, et puis truc.
Puis financer des bus, a priori, moins cher, mais beaucoup plus risqué, parce que des fois, moi, j'en vois des conducteurs de Ouibus qui font n'importe quoi, parce que les conducteurs sont claqués, ils se sont tapés des heures et des heures de conduite.
Il y a pas les conditions de travail. À la SNCF, si tout était encore SNCF, il y a des réglementations, quand je suis arrivé dans cette boîte, qui étaient convenables et qui auraient dû rester convenables. Sauf qu'on a divisé la SNCF en tout petits morceaux, petit à petit, depuis 20-30 ans, et puis qu'on a filialisé. Et qu'on a donné ça, et c'est pour ça que je parle de copinage, à des petites boîtes privées. Voilà, tac, tiens, copain. Mais eux, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. C'est pas du tout les mêmes conditions qu'ont les cheminots au statut, quoi. Ça n'a rien à voir. Ils sont payés au lance-pierre, ils font des horaires pas possibles. C'est comme ça qu'on est arrivé dans un pourrissement interne. Extérieurement, j'en parle même des fois dans ma famille, eux, ils voient que les cheminots. ils croient que maintenant, aujourd'hui, tout ce qui est chemin de fer, c'est tenu que par des cheminots. Mais non, ça a déjà été privatisé. Il y a déjà des trucs privatisés. Et ces gens-là, ils sont encore plus précaires que nous, quoi. Nous, on y arrive aussi. Et c'est ça qui est triste. En plus, on a l'impression qu'ils préféraient que tout le monde descende vers le bas, hein, vers son niveau, que ça monte. Moi, si je suis, admettons, un privilégié, que je dis entre guillemets, parce que je vois pas où je suis...
Oui, 2000 balles pour 27 ans de boîte.
C'est clair, en faisant des horaires de daube, hein, depuis 27 ans, je vois pas trop où je suis privilégié. Mais admettons, si j'en suis un, eh ben qu'ils le deviennent comme moi, alors. Voilà, et puis qu'ils aillent chercher leurs conditions comme moi. C'est tout.
Tout ça, c'est préparé, c'est programmé depuis des années. C'est-à-dire, SNCF n'existe plus. C'est le groupe SNCF qui a envie, en fait, de passer d'un monopole public, on va dire, dans le transport ferroviaire, à un monopole privé, quoi. Et qui s'est entouré de filiales satellites. 1300 filiales, le groupe SNCF. 1300 filiales. C'est énorme.
Et évidemment, les filiales les plus juteuses, les premières privatisées, voilà, et les plus coûteuses, laissées à la charge du contribuable.
Alors là, justement, il faut modérer, tempérer. Parce que c'est vrai, on entend beaucoup dans les médias, de toute manière, le cheminot statut coûte 30% plus cher qu'un salarié dans le privé. Mais c'est faux. Il y a un calcul qui a été fait par rapport aux salariés de l'entreprise publique et aux salariés des filiales. Par rapport, la différence a été faite entre ce qu'ils appellent la richesse produite, le capital produit, enfin, qui permet l'investissement, etc., on va dire le chiffre d'affaires, et celui des filiales, au privé. Il reste 145 000 cheminots et il y a 230 000 dans les filiales. Eh bien, vous faites le rapport, c'est quand même les cheminots qui rapportent 70% de la richesse du groupe SNCF. Donc, en fait, dire qu'on coûte 30% plus cher, c'est faux, vu qu'on rapporte 70% de la richesse. Voilà. Mais même, ils nous le disent dans leur discours, hein. Faut qu'on soit prêt pour l'ouverture à la concurrence. Donc, être prêt à l'ouverture à la concurrence, c'est d'être comme nos concurrents. Mais le TGV, depuis que le TGV, qu'ils ont mis les prix de marché, qui fluctuent comme pour l'avion, hein, par exemple, c'est plus du service public, ça. Qu'est-ce qui reste en service public? Le TER? Parce que c'est les régions qui le prennent en charge. Mais qu'on n'a rien à foutre, hein, honnêtement, hein, que ce soit SNCF, des cheminots ou des SNCF, de n'importe ce qu'ils veulent, bon, c'est une prestation. Voilà. Mais il n'y a que ça qui reste vraiment de public. C'est le TER. Déjà, le TGV, ce n'est plus du service public. C'est des prix de marché. Il y avait un prix au kilomètre. Bah oui, ça, c'était du service public. En plus, on est toujours dans le même système. Là, en plus, avec leurs futures 5 sociétés anonymes, ils ont bien découpé ce qui va rester à la collectivité, qui va rester public, parce que ça coûte de l'argent, c'est-à-dire c'est l'entretien du réseau. Parce que ça, faut se le dire, ça coûte énormément d'argent. C'est vrai.
Sinon, les gens meurent.
Et bah voilà. Et ça, ça attire pas le privé, ça, en fait. Ça peut attirer le privé du BTP, si, qui peut faire des plans publics-privés, plutôt que d'embaucher des cheminots qui vont faire le boulot et qui seront employés de la société anonyme maintenant, qui s'appellera Réseau. Voilà. Et bien, ils vont faire appel, c'est ce qu'on voit, la sous-traitance de plus en plus, etc., quoi. Parce que Réseau aussi va chercher, même si c'est un fonds public, l'État là-haut va lui dire, bah, attends, tes travaux, t'essaies de nous les faire moins cher quand même. Hein. Donc voilà, donc ça va venir comment?
Moi, j'ai un copain à moi qui travaille à La Voix qui m'a dit que maintenant, il fait juste une surveillance des entreprises privées. Bah, les conditions de travail sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'eux, on va les faire travailler, leur faire aller très vite. Il m'a expliqué qu'à un moment, ils avaient fini leurs travaux à 5 heures et qu'en fait, ils avaient encore une heure de travaux. Il demandait à l'entreprise de travailler une heure de plus. Mais on lui a dit, mais vous allez planter tout le réseau. Bon, bah tant pis. Avant, on avait du personnel SNCF pour faire ça. On avait tous ces gens-là. Maintenant, où est-ce qu'il est, ce personnel SNCF? On le supprime. L'accueil en gare?
C'est un Iterimia, c'est une filiale. Oui, l'accueil en gare, dans les grandes gares parisiennes, tu sais, avec les gilets rouges et voilà. Jaune et noir, maintenant. Ah, jaune et noir. On fait sous-traiter aussi pour l'accueil des voyageurs, du personnel de Chalencin. C'est des travailleurs et des travailleuses qui sont comme ça, hein, qui sont pas mieux que nous, mais qui travaillent dans des conditions ignobles, qui sont sous-payés, hein, et qui sont dans une précarité folle, quoi. En fait, c'est la boule de neige, quoi. Ils lancent et puis tout le monde autour de cette boule de neige de précarité, quoi. Puis ça va grossir et ils veulent qu'on en crève tous, quoi. Il y a même du dumping social en interne, même en termes à la SNCF même, quoi. Sans parler des filiales même. Avec des statuts complètement différents entre l'intérimaire, voilà. Enfin, tout est fait. Mais là, ce qu'on vit nous, là, mais c'est, je leur dis, hein, mais c'est ce qu'a vécu tous les services publics auparavant. Hein.
Les privatisations, une autre stratégie du capital pour saboter la SNCF, c'est de détruire le régime des cheminots et de diviser les travailleurs entre eux, entre les permanents, ceux qui ont le statut cheminot, ceux qui ne l'ont pas, les CDI contre les CDD, les intérimaires et autres plus ou moins précaires. Isabelle vient à l'instant de parler de dumping social, Nicolas.
Moi, je suis contractuel, je suis conducteur de train, je suis en CDI, mais je suis au régime général. Donc quand j'entends Buzyn qui dit que les nantis l'a payé sur le dos du contribuable qui défendent leur statut, mais moi je défends pas mon statut, j'en ai pas de statut. Moi je suis contractuel dans l'entreprise. Et je me réjouis que j'ai des collègues qui soient au statut, et j'aimerais être au statut. Sauf que l'entreprise a organisé une discrimination à l'embauche. Si t'as plus de 30 ans, eh ben on t'embauche pas au statut. Alors après, il y a quelques règles dérogatoires en fonction du nombre d'enfants. Si t'as fait l'armée, c'est pareil. Si t'es une femme, il n'y a aucune chance que t'aies fait l'armée. Enfin, tu vois, il y a plein de choses discriminatoires comme ça. Donc oui, elle a organisé, en fait, quand je te disais les stérilisations, c'est les systèmes de c'est les services de nettoyage, c'est les services de restauration, il y en a plein, hein, de l'externalisation. Il y a les CDD, il y a les CDI comme moi, finalement, on a créé une concurrence, enfin, on a détruit le statut de l'intérieur en embauchant des gens contractuels, bah, du coup, bah, ça fait moins de gens au statut, donc moins de gens qui cotisent au statut, donc le statut va disparaître. Bon, en plus, il va disparaître puisqu'à partir de 2020, on arrête d'embaucher au statut. Donc ça, c'est tout ça, c'est dans cette lignée, quoi.
Un contractuel, un CDD, un précaire, bah, ça se met peut-être un peu moins en grève que quelqu'un qui a un peu plus d'assises.
Il a peur à son job. C'est évidemment, un jeune qui rentre dans la boîte pour 6 mois et qu'on lui promet monde des merveilles et que du jour au lendemain, on peut lui dire, bah, écoute, mon gars, bonne journée. Bah, forcément, quand nous, on va aller le voir et essayer de voir ses conditions de travail et qu'on va lui dire, au fait, il y a un mouvement social. Forcément, je peux comprendre le jeune, il ne viendra pas forcément nous suivre de peur de perdre son travail. Et nous, au Sudrail, on combat la précarité et ces CDI. Et en fait, on veut des emplois au CDI et au statut.
Il y a bien ce principe qu'on observe partout, qui est de, dans une même entreprise, monter les gens les uns contre les autres.
La vieille recette du diviser pour mieux régner. Sauf que, enfin, je veux dire, les jeux d'influence entre le pouvoir économique et le pouvoir politique, on arrive à créer des lois subtiles qui permettent d'organiser ce diviser pour mieux régner, mais voilà, insidieusement, quoi. Et chez nous, alors pour le fret, et bah, en parlant de travail précaire, la nouveauté, qui n'est même plus une nouveauté maintenant, parce que ça fait 2 ans que ça existe, on a des intérimaires. Donc là, c'est clair, hein, les intérimaires, qu'est-ce que tu veux qu'ils défendent, quoi ? Eux, ils essayent juste de survivre chaque jour, et puis on leur fait miroiter une embauche qui, 1 cas sur 2, n'arrive jamais. Parce que comme chez nous, la politique, c'est de réduire l'effectif toujours au minimum. Donc les mecs, ils font leur mission intérim pour certains, puis au revoir. Et puis en fait, ce qui se passe, bah, c'est que pour certains, ils partent dans les boîtes privées. Parce que c'est pareil, la SNCF, c'est... T'entends certains discours, t'as l'impression que la SNCF, c'est super bien payé, tu fous rien. Alors déjà, la SNCF, tu fous rien. Ouais. Moi, j'ai envie de dire bah, que les trains, ils roulent comment si on fous rien. Bref, on a des horaires tranquilles, on est bien payé. Enfin, on a tout, Mais sauf que finalement, tu vois, tu en as certains, ils partent parce que soit on leur propose pas de boulot à l'issue, ou soit bah, dans le privé, là, les entreprises Colas Rail et Millet Rail, etc., Eurocargo Rail et tous les trucs en rail, et bah, eux, ils te proposent des meilleures payes. Parce que nous, on garde quand même, on a toujours quelques petits trucs auxquels on s'accroche sur nos conditions de travail, quelques règles qui nous permettent de faire que nos horaires décalés soient un peu plus vivables. Mais dans ces boîtes-là, il n'y a pas ça. Par contre, on t'offre du fric. Les jeunes, ils voient quoi, eux ? Ils voient le chiffre en bas de la paye et puis bah, ils disent, bah, là, il est plus gros. Oh, la retraite, on verra ça plus tard. Les conditions de travail, bah, pour l'instant, je suis jeune, j'arrive à me lever la nuit, il n'y a pas de souci. Enfin, tu vois, tout ça, c'est insidieux, en fait.
On va prendre un cas très concret, en l'occurrence, le tien. C'est quoi ton métier déjà ?
Conducteur de train de fret et je l'ai commencé dans le privé, moi. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé en 2006 chez Eurocargo Rail et j'ai fait 4 ans et demi chez eux. Déjà, au bout d'un an et demi, je voulais me barrer. En fait, si tu veux, on te forme à la conduite, à la sécurité. Et puis, une fois qu'on te lance dans le grand bain, on te demande de t'affranchir de pas mal de règles qui sont pourtant essentielles. Donc, tu as ça déjà. Et puis, tu as les rythmes de travail, les conditions qui étaient et la paye qui n'était pas flamboyante.
Et aujourd'hui, tu es passé sous giron SNCF ?
En fait, j'ai démissionné tout simplement d'Eurocargo Rail et j'ai postulé à la SNCF qui m'a embauché en 2011.
Et donc, tu touches le mirobolant salaire de...
Chez Eurocargo Rail, j'étais payé 1 800 € net par mois. Tout compris, hein, c'est-à-dire les nuits, les paniers, tout ce que tu veux, il n'y avait pas de prime quoi en fait. Et puis en plus les primes, moi j'ai envie de te dire, ça ne m'intéresse pas, tu cotises pas dessus et ça ne compte pas pour ta retraite. Donc même pour la collectivité, ce n'est pas intéressant, pour la sécu et tout, bref. Et à la SNCF, j'ai été embauché déjà en 2011. Aujourd'hui, je suis rendu, on va dire, à une moyenne de 2 400 €, 2 500 € par mois. Alors en fait, j'ai un traitement de base à la SNCF. Quand tu es conducteur, tu as un traitement de base. Alors j'ai oublié, il doit être 2 800 justement ce que je touchais chez ECR, auquel on ajoute les paniers quand on fait des découchés, c'est-à-dire quand on ne dort pas chez nous, en fonction du nombre de kilomètres qu'on fait. Plus tu roules, plus tu gagnes. Alors ça, c'est un système d'ailleurs qui est très discutable et que Sudrail, t'imagines que c'est difficile de répartir équitablement les kilomètres entre tout le monde. Donc tu vois, ce n'est pas génial, ce n'est pas optimum. Clairement, en rentrant à la SNCF, j'ai amélioré mon salaire et j'ai amélioré mes conditions de travail. À l'époque où je suis rentré à la SNCF, il n'y a pas si longtemps, en 2011. Sauf que depuis que je suis rentré, moi, ça avait déjà commencé avant moi, mais les collègues, eux, déjà avaient connu des régressions sociales. Et moi, depuis que j'y suis, ce n'est que ça, quoi. Toutes les règles qui nous protégeaient et qui protégeaient la sécurité sont en train d'être détricotées au fur et à mesure. Et là, on en arrive à l'extrémité où nous, le fret, on est filialisé au 1er janvier 2020. Donc ça veut dire qu'on devient une entreprise privée. Et en fait, je vais retomber de là où je viens, chez ECR. Et quand je discute avec mes anciens collègues d'Eurocargo Rail, puisque les choses, bien sûr, pendant ces années, ont évolué dans ce secteur-là aussi, eux, leurs payes ont augmenté. Alors, leurs conditions de travail ne se sont pas spécialement améliorées. Par contre, leurs payes ont augmenté. Mais nous, les payes, elles ont, par rapport à eux, maintenant, elles sont inférieures. Moi, ce qui me convenait, c'est que je gagne moins qu'eux. Mais par contre, j'ai des meilleures conditions de travail, sauf que je vais les perdre. Donc au final, je vais être moins bien payé avec des moins bonnes conditions de travail. D'ailleurs, la pire entreprise privée ferroviaire qui existe aujourd'hui, c'est VFLI, ça s'appelle, qui est une filiale du fret, et c'est la pire. Moins bonnes conditions, moins bon salaire. Donc, c'est aberrant. On nous parle de progrès, on nous parle de réforme. Moi, j'entends le mot réforme, j'entends le mot progrès. Ça veut dire que ma condition va s'améliorer et celle de ma famille, de mes amis, de mes enfants. Ben non, en fait. On retourne en arrière, ce que je te disais tout à l'heure. En fait, on va retomber au vieux système où tu as les chefs, les patrons et les seniors au-dessus de nous qui mangent sur notre dos pendant que nous, on se bouffe entre nous pour essayer de savoir à celui qui va avoir un peu mieux que l'autre, quoi. C'est insensé pour moi.
Alors, ça vous a peut-être fait dresser l'oreille, mais il a été dit que cette casse de la SNCF a des impacts sur la sécurité et notamment sur la vie des voyageurs. On rogne sur la sécurité pour faire du fric, Willy.
Tu tombes pas mal parce que je suis de la maintenance. Mais nous, c'est la sécurité sur les engins. C'est aussi la sécurité quand on fait la maintenance. Quand tu vas faire une visite toiture, il y a des caténaires. Il faut couper le jus, puis machin, et puis truc. C'est énormément de choses, la sécurité. Attention, la direction, elle ne dira jamais ça, hein, qu'elle joue sur la sécurité. C'est impossible pour elle. C'est impossible. Mais par contre, quand tu es dans des petits services, quand tu es dans des horaires de nuit, moi j'en fais. S'il peut y avoir des petits passe-passe entre cadres et puis agents, de dire voilà, j'aimerais bien que ça soit fait plus rapidement, donc du coup, en gros, il te le dit pas, mais si tu peux louper le petit truc de sécurité qui ralentit le truc, eh ben fais-le. Je suis de la SNCF depuis 27 ans, mais même dans l'ancien temps, je l'ai vu faire des trucs hors sécurité, c'était pas bien, hein, mais c'était une machination.
Rogner sur la sécurité, on a vu ce que ça donnait par exemple en 2013 lors de la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge qui a fait 7 morts. A l'époque, le PDG de la SNCF était le médiocre Guillaume Pépi, un larbin du capital parmi tant d'autres. Et en décembre 2019, un jeune cadre a trinqué devant la justice pour cette catastrophe comme seul responsable de l'accident. Et ça, ça s'appelle un bouc émissaire, Willy.
Je vais revenir dans le système SNCF. Le cadre qui a mangé, c'était le fusible. C'était le fusible à Pépi. Parce que c'est Pépi qui devrait manger, on est d'accord. Sauf que Pépi, faut pas se leurrer, hein. Il a des fusibles en dessous lui, et puis même les fusibles en dessous lui, ils ont des fusibles aussi.
Puis cet imbécile de Pépi, lui aussi, est un fusible. Il a pas dégagé, oui, d'ailleurs.
C'est un fusible protégé. Et comme ceux qui sont en dessous, hein, on a le directeur du matériel, il va pas sauter en premier, ça sera un 4 qui sera en dessous, s'il y a une bêtise de fait. Et encore, si le gars de la maintenance, l'exécutant, a été défendu, là, ce qui s'est passé, c'est que dans l'exécution à Brétigny, toute l'exécution a été super protégée par les syndicats. Au bout du compte, c'était vraiment pas de leur faute, quoi. Ça redescend et après ça remonte. Et là, on s'est aperçu que c'était ce cadre, apparemment, là. Eh ben, c'est lui qui va manger. C'est triste, hein. Mais on est complètement dans ce système-là. Quand je dis de système pervers, on est complètement là-dedans, quoi. Le cadre, je suis sûr qu'il s'y attendait pas, hein. Je suis sûr que lui-même, il se croyait protégé et tout, hein. On peut aller même encore plus loin. C'est comme ça que tu peux avoir des burn-out, des trucs comme ça, hein. Voilà ce qui se passe en ce moment. On est déjà à je ne sais combien de suicides depuis 2017 ou un truc comme ça. On est plus de 140 suicides. Il y en a dans l'exécution, hein, mais c'est beaucoup dans le milieu des cadres. C'est des gens, ils ont cru et ils croyaient être protégés. Après, voilà, on peut parler du carriérisme. Ça peut devenir une maladie. Mais on a le droit vouloir faire carrière. Mais ce qu'il y a, c'est que tu te fais avoir dans des grosses boîtes comme ça. Ou alors, il faut que tu fasses le gentil tout plein. Mais si tu commences à dévier, à pas être gentil, ben alors là, on sait te casser la figure. Voilà.
On vient de parler de suicide, mais aussi d'émission.
Quel intérêt pour un jeune qui rentre dans la boîte? Il va rentrer soit en CDD ou soit il va commencer en bas de l'échelle. Pour gagner quoi? Pour quelles conditions de travail? De plus en plus de cheminots démissionnent. Plus de 1025, j'avais entendu dire, depuis un certain temps. Ça va continuer, parce que quand on entend le mal-être au travail, ça ne pourra que continuer. Plus les suicides dont on évite d'en parler dans les médias, plus tous les autres problèmes qu'il y a dans l'entreprise. Alors aussi, j'aimerais revenir aussi sur un problème de sécurité, comme tu en parlais tout à l'heure. C'était par rapport au droit de retrait des cheminots qui a été appliqué il n'y a pas longtemps. Pour moi, un train, c'est un train et un contrôleur au minimum. J'aimerais insister là-dessus parce qu'en fait, les gens ont dit, même les gens que j'ai vus dans mon train, qu'on les avait pris en otage par rapport à ça. Non, en fait, on a juste fait appliquer qu'en fait, il y avait des problèmes de sécurité dans l'entreprise et que le conducteur était blessé et qu'il est parti faire une protection d'obstacle. S'il y avait eu un contrôleur ce jour-là, nous étions en capacité d'aller faire la protection d'obstacle pour protéger le suraccident. Malheureusement, équipement agent seul veut dire pas de contrôleur. Donc bah, on aurait bien aimé avoir un contrôleur, donc c'est pour ça que nous avons appliqué notre droit de retrait. Quelques collègues ont eu quelques surprises sur leur fiche de salaire, comme quoi ils avaient été en absence irrégulière. Donc on ne va pas en rester là sur ce problème. Des dossiers vont se monter, les avocats sont au courant. Je trouve ça inadmissible. Le droit de retrait, c'est un droit que chacun a dans toute entreprise. S'il estime que même par son droit de penser, il est en danger, il peut appliquer son droit de retrait.
Ce légitime droit de retrait vu par la direction et sur la fiche de paye, c'est bah t'es pas allé bosser, on te paye pas.
C'est exactement ça. En fait, il parlait d'une grève inopinée. Non, nous avons appliqué notre droit de retrait par rapport au manque de sécurité, par rapport à l'EAS, l'équipement agent seul. Et Sud aussi se bat pour qu'un train, c'est un train, un contrôleur, voire deux, voire plus. On se bat aussi pour qu'il y ait des agents dans les guichets, pour que les personnes âgées, dans les petites gares que je peux voir, moi, sur Surgère, toutes les gares qui sont fermées, qui viennent me voir, ils me disent que j'ai pas de billets parce que moi, Internet, j'ai pas Internet à la maison. Et ça, j'aimerais aussi insister là-dessus, parce que le service public, c'est aussi des guichets. Alors notre président s'est engagé, j'espère qu'il tiendra sa parole, pour embaucher des gens dans les guichets. Mais bon, forcément, c'est notre patron, donc on y croit fort. Noël, c'est bientôt, en espérant qu'ils remettent des agents dans les guichets, voilà, pour un bon service public.
Avant les privatisations des entreprises publiques, nous étions encore les usagers de services publics, et notamment des usagers de la SNCF qui n'étaient qu'une seule entreprise gérée par l'État. Alors pour l'histoire, hein, rappelons qu'avant 1937, il y avait de nombreuses sociétés de chemin de fer privées, en faillite, qui ont été nationalisées par le gouvernement de Front Populaire de 1937 et donc payées une première fois avec l'argent du contribuable. Et comme ça s'est passé sous Thatcher dans l'Angleterre des années 80, la SNCF d'aujourd'hui est vendue par petits morceaux à des actionnaires qui veulent juste en sortir du fric, sans investir dans le matériel, ce qui pose des problèmes de sécurité comme on va en parler. Résultat, parce qu'en Angleterre les gens mouraient dans des accidents de train, le gouvernement anglais a été obligé de renationaliser le chemin de fer. Et c'est là que le contribuable raque une fois de plus. Depuis les privatisations de nos services publics français à une multitude de sociétés privées, nous ne sommes plus donc des usagers, nous sommes devenus des clients. Et contrairement à ce que nous a promis, privatiser n'a ni amélioré le service, ni fait baisser les prix. Bien au contraire, et pire encore, qui veut acheter un billet de train et transformer en boursicoteur ? Avant les privatisations, le kilomètre SNCF avait le même prix partout sur le territoire et à toute heure. Aujourd'hui, le prix du même trajet peut varier du simple au triple ou plus. Quand on cherche un billet de train aujourd'hui, on a désormais l'impression de chercher une action en bourse dont le prix varie en fonction de l'offre et de la demande, ou du sens du vent ou de l'âge du capitaine. Ajoutez à ça la disparition des guichets et les fermetures de gares, il faut désormais tout faire par Internet. Comme si tout le monde avait un ordinateur ou un téléphone intelligent. Alors Tony, comment font les gens qui n'ont ni ordinateur ni smartphone pour acheter leurs billets ?
Bah, si t'as pas de portable, bah, tu vas voir le contrôleur. On nous disait à une époque, la gare est fermée, on appliquait du tarif guichet. Sauf que maintenant, ça a bien changé. C'est-à-dire que maintenant, on dit aux gens, bah, écoutez, la gare est fermée, oui, mais normalement, ils ont des bornes, hein, donc ils peuvent acheter un billet. Donc on venait nous voir, on disait, bah, la gare est fermée, on appliquait du tarif guichet. Maintenant, on applique du tarif exceptionnel. Sauf que le tarif exceptionnel est plus cher que le tarif guichet. Et si la personne n'est pas venue vous voir, donc c'est du tarif contrôle. Donc c'est de la fraude avérée, c'est plus cher. Je le déconseille à tous les gens qui nous écoutent. Venez voir le contrôleur, on vous fera un billet et voilà. Mais sachez que la tarification a bien changé depuis un certain temps. Nous l'avions annoncé l'année dernière sur notre grève, avril, mai, juin, que les tarifs allaient augmenter à la SNCF, que les abonnements de travail allaient augmenter. On s'en rend compte aujourd'hui. Allez voir les abonnés sur les trains, demandez-leur et ils vous diront que tout a augmenté. Mais ça, malheureusement, les cheminots, on avait prévenu tout le monde. Thank you.
C'est bientôt la fin de cette conversation avec nos cheminots et cheminotes de Sudrail. On va terminer en parlant stratégie syndicale de ce mouvement de décembre 2019. Le droit syndical, le droit de faire grève est très sévèrement contrôlé et ne permet pas de faire n'importe quoi. Un syndicaliste doit marcher dans les clous de la loi. Il a des contraintes qu'un gilet jaune n'a pas. Quand les cheminots font grève, ils n'ont par exemple pas le droit de faire en sorte que le train soit ce jour-là gratuit pour les gens. C'est dommage, hein, parce que la grève serait alors bien plus populaire si, au lieu de passer pour des preneurs d'otages, les cheminots faisaient voyager les gens gratos, Tony.
Je pense que le fait de faire un mouvement, ça va rendre service aux gens qui prennent le train, les usagers. C'est une grève interprofessionnelle, et en fait, ça va rendre service aussi à ces gens-là. On veut un retrait total de la retraite à points. Déjà, moi, en tant que contrôleur, quand on faisait un retour de grève, un lendemain de grève, si on a un petit peu d'intelligence, les usagers, parce qu'on sait qu'ils ont aussi souffert pendant ces jours-là, peut-être qu'ils ont été embêtés par leur patron, le fait d'être en retard, on peut le comprendre. Mais bon, si on est intelligent le lendemain de grève...
Le droit ne le permet pas, c'est très contrôlé le droit de grève, ça se fait pas n'importe comment. On peut pas aller ouvrir, je sais pas quoi, les péages de Vinci, faire en sorte que les gens prennent le train gratuitement. C'est répréhensible par la loi, ça, et très durement d'ailleurs.
On peut pas se permettre de laisser passer, malheureusement, une personne sans titre de transport, même si je devais rouler un jour de grève, ce qui, à mon avis, à mon cas, serait pas possible du tout. Je ne roulerai pas le jour de grève par solidarité par mes collègues. Laissons les usagers tranquilles. Je pense que le fait que ce mouvement persiste, ça leur rendra service aussi pour eux, parce qu'en fait, on va défendre aussi leur retraite, indirectement. Voilà.
Willy ?
C'est punissable de sanctions. Le refus de contrôler, le refus de faire payer les amendes, ça peut être punissable de sanctions. Tu rentres dans un jeu que déjà tu as la tête dans le mouvement, dans tout, c'est qu'en plus, la boîte, eux, ils vont pas s'embêter de t'envoyer au prud'homme ou je ne sais où, quoi, pour les sanctions, quoi. Donc faut être aussi malin. Faut pas y aller tête baissée, je pense, pour se faire avoir par des règlements. Et puis alors qu'on a besoin d'énergie pour la vraie mobilisation, quoi. Se mobiliser intelligemment. Voilà, moi j'ai connu 95, c'était pas les mêmes règlements. Tu pouvais envahir un établissement, barrer les portails avec des fenouilles, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, tu fais ça. C'est huissier, c'est photo, c'est machin. Tu passes ton temps, au lieu de passer ton temps dans les grèves, eh ben, tu passes ton temps au tribunal, quoi. Donc est-ce que c'est le but? Alors que c'est leur jeu. Parce que pendant ce temps-là, ils éliminent des gens. En plus, généralement, les plus militants. Et les autres, ça leur fait peur. Et ça peut faire arrêter un mouvement. Donc, je pense qu'il faut y aller intelligemment.
Stratégie syndicale toujours, lors de la grève du printemps 2018, les cheminots se sont plantés en adoptant un système de grève perlée, des petites grèves échelonnées sur des semaines. Or, les usagers se sont débrouillés à coups de covoiturage et autres blablacars. Et on pourrait peut-être dire que les cheminots ont perdu des journées de salaire pour une grève qui n'aura finalement pas beaucoup impacté, Willy.
Je dis pas qu'elle a été inutile. Mais en fait, ça a été pour nous endormir, ce système de grève loto. Là. Parce que quand j'ai vu la première fois le truc sur le calendrier, je croyais que c'était une grille de loto. Hein, il y avait les jours qui étaient entourés et puis tout. Alors ça aurait pu servir, ouais. Pourquoi pas pour les 15 premiers jours, pour voir si les cheminots étaient prêts à suivre. Ils n'auraient pas dû continuer. Et en fait, ça a été de l'endormissement. Pour moi, c'est de l'endormissement syndical. Que, encore une fois, depuis 27 ans, j'ai pas mal connu.
Même à Sud? Parce que je pensais que vous étiez plus éthique que les autres à Sud.
Je parle pas de Sud. Quand je parle depuis plus de 20 ans, Sud n'existait pas déjà. Ça existait à partir de 95. Mais même avant, déjà, ça existait, ça. C'est-à-dire l'endormissement syndical. C'est-à-dire c'est les OS qui chapotent les cheminots et qui font un peu ce qu'ils veulent d'eux. Et là, c'est une certaine entité syndicale qui a voulu faire ça, ce préavis de grève loto. Mais c'était pour endormir le mouvement, pour pas qu'il y ait de convergence de quoi que ce soit, c'était pour faire patienter. Et on s'est fait avoir. Je me ferai pas avoir cette année, c'est mort.
Tu parles de syndicats jaunes, hein, tout le monde pense évidemment à la CFDT. Alors, je ne sais pas si à la SNCF, c'est comme ça. Et c'est pas eux que tu pensais. Bon, si je viens aujourd'hui promener mon micro à Sud Solidaire, c'est parce que je me fais l'idée quand même que Sud, c'est un syndicat éthique et qui tient encore la route jusqu'à ce qu'on me démontre que vous y faites des merdes comme les autres. Mais j'en ai pas encore la preuve. Donc, c'est pour ça que je suis ici et pas ailleurs aujourd'hui.
Sud avait posé une reconductible. Voilà. Qui a été sabré. C'est pour ça que je parle de magouille syndicale. Sudrail est encore petit dans le monde de SNCF, hein, faut pas rêver. Et du coup, on n'a pas cette puissance. J'aime pas trop ce mot-là encore, mais on n'a pas cette puissance syndicale, quoi. Pour faire vraiment notre boulot de représentants syndicaux, ben, on n'est pas assez puissant. Et on tombe sur des grosses organisations qui sont plus dans la bureaucratie qu'autre chose, quoi. 2018, on s'est fait avoir, ouais, c'est clair. On sort du congrès du mois de septembre et je vous garantis que Sudrail va tout faire pour éviter de se faire avoir. Je dis bien va tout faire. Je dis pas qu'on sera pas avoir, hein, parce qu'on peut tomber sur encore plus malin.
Sudrail va tout faire pour que les cheminots et les cheminotes ne se fassent pas avoir. C'est elles et eux qui vont décider en assemblée générale, parce que le mouvement leur appartient. On n'est qu'un outil.
Alors si Willy est un peu déçu, c'est évidemment pas par la CFDT dont il n'y a rien à attendre, puisque c'est un soi-disant syndicat jaune à la botte des patrons. Willy est un peu déçu par l'attitude de certaines branches de la vénérable et historique CGT. Alors attention, hein, on va pas faire de généralité, car sur bien des fronts, la CGT reste un bon syndicat de lutte, parfois plus ou moins virulente selon les endroits, faut dire.
C'est un syndicat de lutte, normalement, ce syndicat. Il y a Krasuki, il doit se retourner dans sa tombe en ce moment-là. Quand il voit le moustachu ou celui qui était avant, franchement, mais il doit se retourner dans sa tombe. Et je suis d'accord avec toi, hein. T'inquiète, hein, il y a encore des bastions de vrais lutteurs dans la CGT. Il y en a encore. CGT cheminot, on a Versailles. Versailles, ça pourrait être des sudistes. Hein.
Je reviens à cette stratégie de mouvement social de cette fin d'année 2019. Donc, abandon de la grève perlée, parce qu'on a bien vu, en fait, que ça leur faisait même pas mal, quoi. Très vite, les usagers, à coup de covoiturage, à coup de blablacar, etc., et ben, les salariés qui devaient aller au boulot, et ben, ont fait autrement que sans le train. Vous avez perdu des jours de salaire pour rien, pour un mouvement social qui a presque glissé. Donc, changement de stratégie.
Pas changement de stratégie, parce que comme disait Willy, la stratégie, on l'avait, nous. C'était une grève reconductible l'année dernière. Donc cette année, c'est toujours une grève reconductible. Mais nous invitons les cheminots à voter en Assemblée Générale. Je voterai en mon âme et conscience pour ma retraite, que je travaille depuis l'âge de 16 ans et que j'ai 46 piges. J'ai 30 ans où je travaille, où j'ai pas envie que ma retraite parte en fumée parce que M. Macron a décidé de nous passer une retraite à points où on va perdre de l'argent. Nous pondre une clause du grand-père où nos gosses vont se faire avoir. Non, niette, je n'en veux pas pour une lutte reconductible. Et on continuera jusqu'à temps que M. Macron enlève cette retraite à points. Retrait de la retraite à points. Voire plus si affinité. Parce que là, on perdra trop d'argent. Tout le monde a à y perdre, privé comme public. Tous dans la rue, grève générale, une grève interpro. On est déterminés, on ne se laissera pas faire.
Et voilà les amis, merci aux cheminots et cheminotes et autres salariés qui peuvent encore se battre pour les droits de tout le monde. C'est ici la fin de cette émission que vous pouvez réécouter sur notre site polymixetlavoixoff.com avant qu'on se retrouve très vite sur cette même antenne. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut.
Terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G 101.5 FM.
Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
Bonjour à toutes et à tous. Les activités humaines, transport, industrie, chauffage, agriculture émettent de nombreux polluants qui se propagent dans l'environnement par différents canaux et viennent polluer sols et sédiments. Même très faiblement, de grandes étendues peuvent